Je ne suis pas pasteuse, je suis messagère de bonnes nouvelles. Psaume 68, le verset 12. Dieu donna la parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Alléluia! Je peux vous dire, témoigner, Jésus est merveilleux. Qui ne connaît pas encore le Seigneur? Vous n'osez pas? Bien, si vous ne connaissez, si vous n'avez pas l'assurance, écoutez bien ce soir. Il ne s'agit pas d'une religion, mais de recevoir Jésus-Christ, comme dit la Bible, dans son cœur, sa vie. Lui demander pardon pour nos péchés, le remercier qu'il est mort à la croix pour nous, et le recevoir dans notre cœur. Et la Bible dit, à celui qui le reçoit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et j'en suis une. J'étais très, très timide quand j'étais petite, jeune fille en grandissant. Je n'ai pas osé parler devant ma classe, devant des jeunes, mon âge. J'ai quitté la classe en pleurant. J'avais commencé et je n'ai pas osé. J'ai tremblé. Pourtant, je savais que j'étais un enfant de Dieu et que j'ai eu un appel de Dieu sur ma vie pour devenir missionnaire à l'âge de 8-9 ans par un frère de Suriname. À l'âge de 6 ans, j'ai accepté, reçu Jésus-Christ dans mon cœur, dans ma vie, par mon papa. Mon papa et ma maman, ils ont 7 enfants. Et chaque soir, il pria avec les enfants. Et un soir, il m'a dit, « Enneke, il ne faut plus demander le Seigneur ceci ou cela, mais veux-tu le recevoir? Veux-tu devenir sa fille, son enfant? » Je dis, « Oui, papa, oui. » Et bien, on va prier. Je l'ai reçu dans mon cœur et j'ai reçu l'assurance. Et après quelques années, j'ai crié au Seigneur, « Seigneur, délivre-moi, libère-moi de cette peur que j'ai pour devant les hommes et pour les hommes, de leur opinion et tout cela. Seigneur, je veux te suivre, je veux t'obéir, je veux t'aimer et partager cette bonne nouvelle que tu es mort à la croix pour nous sauver, pour faire de nous tes enfants, les enfants du Dieu Tout-Puissant. N'est-ce pas merveilleux? C'est quelque chose d'incroyable presque, je dirais, mais c'est vrai. Et j'ai vu comment Dieu a changé ma vie. Maintenant, il y a un petit problème que j'ai encore. Je ne sais plus m'arrêter. Mais je veux laisser la place à mon mari, mais je veux encourager ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Venez ce soir. Dites au Seigneur, « Seigneur, je vais te recevoir. » Très simplement, pardonne-moi mes péchés. Il y aura des problèmes, des difficultés, des épreuves dans votre vie. Ce n'est pas pour vous décourager, mais pour vous avertir, parce que la Bible dit, Jacques 1, le verset 2, « Mes frères, mes sœurs, j'ajoute, parce que c'est pour tout le monde, regardez comme un sujet de joie parfaite lorsque vous traversez des épreuves. » Il se dit, « Jacques, tu sais ce que tu dis ?» Et après des années, j'ai compris. À travers des années. Car le Seigneur a révélé pour moi, nous étions à la Martinique et on a eu des épreuves. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, le verset 28. Mais il faut lire aussi le 29. Parce que 28 et 29 sont inséparables. Car c'est pour un but. Car celui que Dieu a appelé, il les a aussi prédestinés à devenir semblables à l'image de Jésus-Christ. Et ce n'est pas en poussant sur un bouton que Dieu dit, bon, je veux les changer. Non, c'est à travers des épreuves. Jésus est notre exemple. Et tu reçois des muscles spirituels forts. Il exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Et nous sommes dans un combat parce que la Bible dit aussi, et avec ça je veux finir, à celui qui vaincra, je le ferai, dit Jésus, s'asseoir avec moi sur le trône pour régner. Ce n'est pas sans combat, ce n'est pas sans... La victoire n'est pas comme ça. Jésus a vaincu, mais il veut aussi que nous devenions des vainqueurs. En son nom, par sa puissance, par la puissance du Saint-Esprit, que Dieu veut vous donner aussi ce soir. Que Dieu vous bénisse.
Bonsoir à tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir tous. Et vous savez, lorsque je me tiens ici ce soir, je crois qu'on peut baisser ça un peu, d'après moi, eh bien donc je dois penser à notre première campagne d'évangélisation, et celle-là, elle a eu lieu à la plage de Sainte-Marie. Et il y a eu un événement spécial qui a retenu l'attention de certaines personnes qui étaient là, qui étaient en train d'écouter. C'est qu'un de ces soirs, il y avait une masse noire, la pluie qui s'approchait. Et vous savez, bien sûr, si la pluie avait tombé, eh bien donc la réunion aurait été tout simplement annulée. Eh bien donc, nous avons pris autorité sur cette pluie. Nous avons, au nom de Jésus, repoussé cette masse noire de pluie. Et la pluie n'est jamais tombée ce soir-là. Et la réunion a pu avoir lieu. Et ça a touché des cœurs. Et vous savez, ce Dieu qui contrôle le temps, eh bien, c'est le Dieu qui est encore ici ce soir. Et je voudrais vraiment... Donc, vous encouragez à ouvrir votre cœur. Maintenant, il y a quelque chose. Vous savez, quand on fait une évangélisation, l'évangéliste ou le pasteur, peu importe donc le prédicateur, n'aimerait pas évangéliser les chrétiens. Il aimerait évangéliser ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Oui, vous dites amen, amen, mais pour qu'il y ait des non-croyants pour évangéliser, il faut qu'ils soient ici. Et d'habitude, ils ne viennent pas seuls comme ça, hein. Ils viennent parce que quelqu'un les a invités. Alors j'aimerais maintenant vraiment mettre sur votre cœur de venir demain soir et de venir dimanche soir avec quelqu'un qui a besoin de rencontrer Jésus. La raison pour laquelle vous êtes ici, c'est parce que probablement quelqu'un vous a amené à une réunion où vous a parlé de Jésus. Ça, c'est mon cas. Pour moi, donc, c'était mon ami qui, lorsque j'avais 9 ans, m'a parlé du Seigneur. Lorsque j'étais un peu plus âgé, il m'a reparlé du Seigneur. Et quand j'avais 18 ans et demi, il a sonné chez moi et il m'a invité à une petite balade en voiture. C'était un simple piège. La balade a duré 3 kilomètres et je me suis retrouvé sur un banc dans une salle de restaurant en train d'écouter un évangéliste. Et ce jour-là, je me suis converti. Mais donc... il y a quelqu'un qui m'a amené. Alors j'aimerais que vous veniez demain soir avec quelqu'un. Demandez au Seigneur, donne-moi une personne que je pourrais amener ici et dimanche soir. J'aimerais juste vous raconter l'histoire de cet homme d'affaires en Angleterre qui a partagé l'histoire de sa conversion à son pasteur. Il a dit, j'étais homme d'affaires, mes affaires n'allaient pas du tout bien. Il était déprimé, cet homme, et pour ses affaires, il devait prendre l'avion et se rendre aux États-Unis. Il a pris un taxi qu'il a amené à l'aéroport, et quand il était dans le taxi, vous connaissez peut-être les taxis londoniens, vous savez, il a vu sur le tableau de bord du chauffeur des photos, et il a dit certainement, ce sont femmes et enfants de ce chauffeur, il a commencé à lui poser des questions. Et ce chauffeur lui a répondu d'une façon aimable. Et à un moment donné, le chauffeur lui dit, « Monsieur, je m'aperçois, vous êtes malheureux. Si vous recevez Jésus dans votre cœur, eh bien, ça va changer votre vie. » Eh bien, l'homme d'affaires a dit, « Je pensais que c'était moi en autorité, puisque moi, je payais le taxi. Mais c'était lui, le chauffeur, qui était en position d'autorité. » Quand ils sont arrivés à l'aéroport, le chauffeur se tourne, et pour la première fois, l'homme d'affaires voit le visage de son interlocuteur. Et il a dit, c'était un visage empreint de bonté. Et le chauffeur de taxi lui propose de prier avec lui, afin de le conduire à Jésus. Et l'homme d'affaires a consenti. Donc ils ont prié Et cet homme d'affaires reçoit Jésus dans son cœur. Et le chauffeur de taxi lui remet une brochure. Et puis, leurs chemins se sont séparés. J'ignore si les deux vont encore une fois se rencontrer ici-bas sur terre. Mais vous savez quoi? Ce chauffeur de taxi, il a utilisé l'occasion qu'il a eue de parler du Seigneur à une personne. Et c'est ce que j'aimerais vous encourager à faire. Et donc demain soir, ne venez pas seul, mais soyez accompagné par quelqu'un, et que cette salle soit trop petite, c'est toujours un bon problème, vous savez. N'est-ce pas? Maintenant, je vous invite à prendre votre Bible, parce que nous prêchons non pas de France entière, mais de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et je voudrais que vous preniez votre Bible dans le chapitre 4 de l'Évangile selon Jean, chapitre 4, et nous allons parler d'une Samaritaine. J'avais complètement oublié qu'on appelle les habitants de Sainte-Marie les Samaritains. Eh bien, ce soir, on va prêcher de vous. On va prêcher d'une Samaritaine. Et il se peut que cette Samaritaine soit assise ici, ou ce Samaritain, et vous pouvez aussi avoir une rencontre avec le Seigneur Jésus. Alors, s'il vous plaît, si vous avez apporté votre Bible, ouvrez-la, chapitre 4 de l'Évangile selon Jean. Si vous n'avez pas de Bible, soit vous lisez chez votre voisin, ou alors vous écoutez attentivement. Et il me semble qu'on vend ici des Bibles si jamais vous n'en avez pas encore, car il est indispensable que vous lisiez la parole de Dieu. Vous avez trouvé ? Jean chapitre 4, et notre lecture débute au verset 1er. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Jean, c'est Jean-Baptiste. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. J'aurais quelque chose à dire là-dessus. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. La sixième heure, c'est midi. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Tu lui aurais donné, toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va. » Lui dit Jésus, « Appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, « Je n'ai point de mari. » Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, c'est-à-dire loin, celui qui a reçu l'onction. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis. » Littéralement, il est écrit ici, « Je suis moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Et puis le verset 28, « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Amen. Alors je vous demande de garder votre Bible ouverte, parce que vous pouvez ainsi suivre un peu le développement de cette histoire magnifique. En France, où nous habitons maintenant depuis presque 15 ans, nous évangélisons régulièrement dans les villes, dans les rues de Rouen, qui est Haute-Normandie, avec ce que nous appelons un tableau. Et nous plaçons sur un tableau un rébus. Je ne sais pas si vous connaissez les rébus. C'est une phrase qui est exprimée sous forme de dessin, et les passants, nous les interpellons, ou alors tout simplement parce qu'ils voient le tableau, ils s'arrêtent et ils essaient de résoudre ce rébus. Et alors cela nous donne l'occasion d'entrer en contact avec les gens. D'habitude, ce rébus, c'est une question comme « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier ?» s'il perd son âme, ou encore il y a dans le cœur de l'homme un vide de la forme de Dieu. Un samedi après-midi, il y avait beaucoup de gens qui se sont arrêtés, j'ai vu une femme qui hésitait, et puis je l'ai interpellée, je l'ai encouragée, mais madame, essayez de résoudre ce rébus. C'était une femme qui avait entre 35 et 40 ans, je pense, et vous savez, on a commencé une conversation. Elle venait de la ville d'Amiens, à environ 120 kilomètres de Rouen. Elle était là pour se distraire un peu, et elle a commencé à me parler de sa mère, qui pratique la magie noire. On n'a pas besoin de se retrouver aux Antilles pour être confronté avec le mal de l'occultisme, de la sorcellerie et de la magie. Et elle m'a dit, « Monsieur, ma mère a tué mon frère par la magie noire, et je serai certainement la victime suivante. » Elle était dans la dépression. Elle souffrait d'insomnie. Elle avait perdu son travail. Et alors je lui ai dit, « Madame, nous avons une solution pour vos problèmes. » Je lui ai annoncé l'évangile. Et elle est repartie avec la cassette vidéo du film « Jésus » avec un Nouveau Testament et avec la bonne nouvelle. Mais avant, je lui ai dit, « Madame, je crois que cette rencontre n'était pas une rencontre par hasard, je crois que c'était un rendez-vous divin. » Et ici, vous avez un rendez-vous divin. Ici, il y a deux personnes dans le chemin croisent, il y a une Samaritaine qui est dans le besoin, et il y a le Sauveur du monde qui se manifeste à elle. Et je crois que ce soir, dans cet auditoire, il y a une personne ou deux, et vous aussi, vous avez besoin de ce rendez-vous divin. Et ce soir, le Seigneur, il frappe à la porte de votre cœur et il voudrait croiser votre route. Alors la Bible nous dit que le Seigneur Jésus est en route vers la Galilée. Il se trouve là en Judée, et vous savez, pour traverser ou pour arriver de la Judée, c'est-à-dire du sud, vers la Galilée au nord, vous devez passer le territoire de la Samarie. Et la Samarie, c'était maintenant un territoire à part, habité par ces Samaritains, et nous allons en parler un peu plus, mais la Bible insiste dans ce passage qu'il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Et Jésus arrive dans cette ville de Sichar. Alors il y a une particularité, chers amis, parce que Sichar se trouve entre deux montagnes. Il y a d'un côté la montagne de l'Ébal, et d'autre part vous avez la montagne du Garizim. Et peut-être que ces deux montagnes, ces deux noms ne vous disent absolument rien. Mais ceux qui connaissent un peu leur Bible savent que lorsque Israël a fait la conquête du pays promis, lorsqu'ils ont expulsé les Cananéens, sur ordre de l'Éternel, il fallait prononcer la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Autrement dit, cette ville se trouve entre, d'un côté, la bénédiction et de l'autre côté, la malédiction. C'est un peu comme si le Seigneur voulait dire, habitant de Sichar, ça c'était l'ancien Sichem, vous êtes devant un choix. Et ce soir, vous, chers amis, vous êtes devant un choix. Moïse devait dire de la part du Seigneur, voici, je mets aujourd'hui devant toi la bénédiction et la malédiction, le bien et le mal, la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. N'est-il pas bizarre qu'il faille encourager les gens à choisir la vie et non pas la mort, à choisir la bénédiction et non pas la malédiction? Et pourtant, nous sommes entourés par des millions de gens dans ce monde qui semblent choisir, opter pour la mort et le mal et la malédiction. Mais ce soir, le Seigneur te dit, viens, je t'offre la vie, le bien et la bénédiction. La Bible nous dit que Jésus, il s'assit là sur le bord d'un puits, le puits de Jacob, parce qu'il est fatigué du voyage. Et vous devez savoir une chose, vous lisez l'évangile selon Jean, et vous savez que Jean, il voulait montrer au lecteur que Jésus est vraiment fils de Dieu et Dieu. L'évangile de Jean, c'est l'évangile qui montre la divinité de notre Sauveur. Et vous avez tellement d'expressions où le Seigneur Jésus dit « Je suis, je suis, je suis ». Autrement dit, il s'identifie à celui qui s'était révélé à Moïse près du buisson ardent. Et quand Moïse dit « Mais qui, dirais-je, m'a envoyé ?» Alors le Seigneur lui dit « Dis-leur, je suis ». C'est là mon nom. Et ici, c'est Jésus, le grand « Je suis ». Mais ici, pour une fois, nous voyons l'aspect humain. Jésus, fils de Dieu, mais aussi Jésus, fils de l'homme. Autrement dit, il est devenu homme, non seulement pour mourir à notre place, mais il est devenu homme pour savoir ce que c'est que d'être humain. Et comme l'a dit un grand évangéliste américain, Jésus était assis là où vous êtes assis ce soir. Il a connu toutes les vicissitudes, les épreuves, les tentations, les luttes, les problèmes, les difficultés que vous connaissez aujourd'hui afin qu'il puisse nous comprendre. Il y a une dame, plutôt une jeune fille, qui a écrit à cet évangéliste parce que c'était un message qu'il a partagé pendant un certain temps. Jésus était assis là où vous êtes assis aujourd'hui. Elle a dit, révérend Roberts, c'est là le nom de cet évangéliste, vous vous trompez d'une chose, Jésus n'a jamais connu la tentation de la drogue. Et le révérend Roberts lui a répondu, vous vous trompez, demoiselle. Parce que quand Jésus a été cloué sur la croix, on lui a proposé un breuvage, vous savez, ce fiel mêlé, un mélange. Ce n'était rien d'autre qu'un stupéfiant. C'était un genre de drogue que les Romains offraient aux condamnés comme une petite consolation pour atténuer un peu leur souffrance. Et la Bible nous dit que Jésus l'a refusé parce qu'il voulait souffrir et il voulait souffrir jusqu'à la lie. Alors Jésus, il est là sur le bord lorsqu'une Samaritaine s'amène et vous devez savoir qu'à midi, le soleil tape de toute sa force comme ici. Alors vous pouvez donc comprendre un peu. Les autres femmes, elles étaient là à l'abri de leur maison. Personne ne se rendait au puits pour puiser de l'eau à midi. Pourquoi cette Samaritaine venait-elle au puits à cette heure-là? Pour la simple raison qu'elle était marquée. C'était pour ainsi dire une lépreuse spirituelle. Parce que et justement, elle avait mené la mauvaise vie. Vous avez entendu la parole que le Seigneur lui a adressée. Tu as bien dit, je n'ai pas de mari, puisque tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Autrement dit, cette femme avait mené une vie de dévergondée. Et c'est la raison pour laquelle elle était obligée de se tenir à l'écart. Le péché l'a marquée et le péché l'a séparée des autres, comme ça c'est souvent le cas. Jésus rencontre cette femme. Et vous savez, quelqu'un a dit que ce récit, c'est le récit des surprises. Et vous rencontrez ici effectivement un Jésus étonnant. Premièrement, avez-vous noté que c'est lui qui ouvre la conversation? C'est lui qui demande à boire. Non seulement commence-t-il la conversation, et vous devez savoir que ça c'est typique pour Dieu. Dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont péché, lorsqu'ils ont transgressé le commandement de Dieu, ils se sont cachés derrière le buisson, conscients de leur nudité. Eh bien, c'est Dieu qui a repris le dialogue. C'est lui qui a dit, Adam, où es-tu? Et ce soir, le Seigneur voudrait reprendre le dialogue avec toi. Toi qui es ici et peut-être n'as-tu plus pensé à Dieu, mais Dieu voudrait reprendre le dialogue avec toi. Et puis Jésus détermine aussi deux sujets de conversation. C'est l'eau. L'eau pour une âme assoiffée. Et ce soir, nous aimerions vous parler de l'eau, une eau qui peut étancher notre soif. Si vous avez soif, et je crois que tous les hommes sont des chercheurs de bonheur, suffit de regarder un peu autour de nous, n'est-ce pas? Tous ces lieux de plaisir et de divertissement montrent que l'homme est à la recherche de quelque chose qui puisse étancher la soif de son cœur, la soif de son âme. Eh bien donc, Jésus dit, donne-moi à boire. Et alors, il y a une troisième surprise. C'est la surprise exprimée par la Samaritaine, parce qu'elle dit, comment toi, qui es un juif, tu m'adresses la parole à moi qui suis une Samaritaine. Et Jean ajoute une note explicative pour les lecteurs qui ne connaissaient pas la situation. Il a dit, en effet, il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Aux yeux des Juifs, les Samaritains, c'était des impurs. C'était un mélange d'une race. Et pour comprendre la situation, vous devez retourner dans l'Ancien Testament. Mélange de race, mélange de religion, c'était le grand mélange. Mais ce que je voudrais dire surtout, chers amis, ce soir, c'est que la situation, ce manque de rapport et de relation entre les Juifs et les Samaritains, c'est un genre de reflet de cette rupture de relation entre Dieu et l'homme. Vous savez, beaucoup de gens ne sont pas conscients de cela. Je pense maintenant à la situation en France, et nous parlons aux Français, et vous savez que les Français sont des gens durs, par rapport à l'Évangile. On dit, les sondages disent qu'il y a quand même encore 60% des Français qui croiraient en Dieu. Mais donc, croire, je ne sais pas de quelle façon. Mais de toute façon, vous savez, ces Français, oui, quand il s'agit de croire en Dieu, ils disent, mais pourquoi devrais-je croire? Pourquoi? J'ai tout. Je jouis d'une bonne santé. J'ai une maison, j'ai ma bagnole, j'ai un travail. Et je n'ai pas besoin de Dieu. Et peut-être te trouves-tu dans une situation identique, que sur le plan matériel, tu as tout ce que ton petit cœur désire. Mais le problème n'est pas là en premier lieu. Le problème se trouve dans le fait que nous sommes séparés d'avec Dieu par le péché. Et nous n'avons pas besoin de Dieu en premier lieu pour avoir un emploi, ou pour jouir d'une bonne santé, ou pour que ça marche dans notre ménage, dans notre famille, dans notre mariage. Nous avons besoin de Dieu parce que nous avons péché et parce que nous sommes séparés d'avec lui. Alors, la surprise de la Samaritaine, et Jésus réplique. Est-ce que vous avez lu? Si tu connaissais le don, et celui qui te parle, si tu connaissais. Oh, cher ami, je ne sais pas si tu connais vraiment le don de Dieu. Cela me fait penser à un homme qui est venu un jour à Rouen dans notre réunion. On avait ce qu'on appelle une matinée visiteur, c'est ce que nous faisons de temps à autre. On commence avec une tasse de café, une part de gâteau, et au lieu du prêche dominical, on entend le témoignage de conversion de quelqu'un. Et ce matin-là, un grand homme élancé, il est entré. C'était un ancien collègue de travail de la femme chez qui nous avons commencé l'œuvre. Les deux infirmiers, donc lui infirmier, et il s'assit et il écoute. Ce matin-là, nous avions le frère Paul Olsen parmi nous, que plusieurs d'entre vous connaissent encore. Et Paul, il a apporté un message, et vous savez, à la fin, cet homme, Jean-Louis, il s'est approché. Et il a ouvert son cœur au Seigneur. Et à la fin de la réunion, il a dit, « Mais c'est ce que je cherchais toujours. » Autrement dit, il a cherché partout, et il a fini par trouver ce don. Si tu connaissais le don de Dieu. Je me souviens que tout au début de notre séjour où on est, nous avons fait la connaissance d'une jeune femme et nous lui avons donné l'évangile. Et puis elle est partie pour les États-Unis, on a perdu le contact. Elle est revenue, mais il n'y avait plus de contact. Et un beau jour, le téléphone sonne et c'était elle, Marie. Elle était excitée, vraiment. Elle avait de la peine à trouver les mots. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, enfin, elle avait réellement trouvé le Sauveur. Elle avait découvert Jésus et elle trouvait ça formidable. Donc, elle a découvert le don. Si tu connaissais le don, et celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé. Alors, vous savez, sur ces paroles-là, la femme réagit. Et on dirait presque ce que cette Samaritaine était une bonne Française, parce qu'elle manifeste un esprit cartésien. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'esprit cartésien, c'est un esprit rationaliste. Ça vient du célèbre philosophe et mathématicien Descartes. Et donc alors, quand on parle d'un esprit cartésien, on veut dire quelqu'un qui veut tout expliquer, on veut tout raisonner, on veut tout comprendre intellectuellement. Cette femme, elle dit, mais comment veux-tu m'offrir à boire? Tu n'as rien. Tu n'as pas de seau pour faire descendre dans le puits, n'est-ce pas? Et elle lui pose une question. Vous savez, frères et sœurs et amis, l'évangile ne peut pas être compris exclusivement avec notre cerveau. La Bible nous fait comprendre que l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas régénéré, qui n'a pas expérimenté ce que le Seigneur Jésus appelle la nouvelle naissance, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit. Il faut avoir un éclairage surnaturel du Saint-Esprit. Et je souhaite que ce soir, cet éclairage te soit accordé, que tu puisses saisir et comprendre l'Évangile. Et elle lui pose la question, es-tu plus grand que notre père Jacob? Es-tu plus grand? J'aimerais juste m'arrêter là un instant. Es-tu plus grand? Oh, chers amis, je peux te dire que Jésus est plus grand. Plus grand que les grands de la Bible. Et vous en avez de grands, n'est-ce pas? Vous en connaissez certainement. Plus grand que Moïse. Et pourtant Moïse, il a délivré le peuple de l'esclavage. Il les a conduits vers la liberté. Mais Jésus est plus grand. Parce que lui, il peut briser les chaînes du péché, de l'esclavage spirituel. Il peut t'affranchir de tes mauvaises habitudes. Et il peut te donner la vraie liberté. Si donc le Fils vous affranchit, dit Jésus, vous serez réellement libres. Et je connais tellement de gens qui ont vécu cette délivrance spirituelle. Plus grand que Moïse, qui pendant 40 ans a donné à Israël la manne, le pain du ciel, parce que Jésus est lui-même le pain descendu du ciel. Et quand nous le mangeons, eh bien nous sommes rassasiés et satisfaits. Alléluia. Plus grand qu'un Élisée, qui lui a guéri un lépreux, un général, parce que Jésus, lui, il peut te guérir d'une lèpre qui est beaucoup plus hideuse et destructrice que la lèpre physique. Je parle du péché. Vous savez, la Bible, elle compare le péché à la lèpre. Et tout comme la lèpre détruit un corps et nous isole des autres, de même, le péché nous détruit. Et il détruit pour l'éternité. Mais Jésus, lui, il peut te guérir de cette lèpre. Plus grand que David, qui pourtant est considéré comme le plus grand des rois d'Israël. Mais Jésus est appelé roi des rois. Et il est seigneur des seigneurs. Plus grand que David, oui, parce que David, il a terrassé le géant Goliath, apportant ainsi à son peuple une victoire éclatante. Mais mon Jésus a terrassé quelqu'un de plus grand que Goliath. À la croix, il a triomphé de Satan et de toutes les puissances des ténèbres. Il les a mis en spectacle. Il en a triomphé publiquement par sa mort à la croix. Es-tu plus grand? Et la réponse est oui. Oh oui, Jésus est infiniment plus grand. Tu nommes un personnage et je te dirai, Jésus, il est plus grand. Alléluia. Alors, Jésus fait comprendre quelque chose à cette femme. Il lui dit, écoute, tu peux boire de ce puits, mais tu vas revenir. Mais l'eau que moi je te donnerai, c'est une eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Chers amis, tu peux essayer d'étancher ta soif dans les plaisirs de ce monde, et tu vas te retrouver de nouveau et de nouveau assoiffé. Ça, c'est probablement l'expérience de la plupart d'entre vous, n'est-ce pas? C'était mon expérience. Oui, pendant un certain temps, on peut trouver un peu de plaisir dans le péché. Billy Graham, l'évangéliste américain, le disait si bien, il y a dans le péché une saison de plaisir. Mais c'est de courte durée. Et puis, c'est tout simplement fini. Voilà, alors la Bible parle de la jouissance éphémère du péché. Et je voudrais citer ici quelques exemples que j'ai trouvés ici et là. Je pense à Ralph Barton. Le nom ne vous dira rien et pourtant c'était un célèbre caricaturiste américain. Et avant de se tirer une balle dans la tête, terminant ainsi sa propre vie, il a épinglé une note à son oreiller en disant « Je suis fatigué de passer d'une épouse à une autre ». Et d'un plaisir à un autre, et d'inventer chaque jour de nouveaux expédients pour remplir les 24 heures de ma journée. Blasé, déçu, et il a tiré une balle dans sa tête. Je pense à Cole Porter, et le nom ne vous dit rien, mais vous avez très certainement entendu des musiques qu'il a composées. Célèbre compositeur américain, fils de parents riches, un homme qui a épousé une femme aussi belle que riche. Elle a dit pendant toute ma vie, j'ai combattu, j'ai lutté contre l'ennui. Quel témoignage! Ça c'est l'eau du monde. Et comme Jésus a dit, eh bien, si tu bois de cette eau-là, tu auras encore soif et tu seras encore obligé de revenir et de revenir à ce puits. Est-ce que vous pouvez maintenant comprendre pourquoi saint Augustin, il a dit, oh Dieu, tu nous as créés pour toi-même et notre âme reste sans repos jusqu'à ce que nous ayons trouvé le repos en toi. Vous savez, Augustin devait le savoir. Il était fils de Monica. Monica, une femme pieuse qui, elle, priait pour la conversion de son fils. Mais Augustin, c'était un playboy. C'était quelqu'un qui jouissait de la vie. Un jour, il a formulé une prière. Il a dit, « Oh Dieu, rends-moi chaste. » Mais pas encore. Vous comprenez ça? Il a voulu encore goûter un peu des plaisirs de ce monde jusqu'à ce qu'il découvre que nous trouvons seulement la paix et le repos quand nous venons auprès du Seigneur. À la maison, j'ai encore un 33 tours et malheureusement, je ne peux plus le jouer, je n'ai pas l'appareil. Le chanteur s'appelle Dave Boyer. Il a un nom français. Une voix magnifique. Ancien chanteur de boîte de nuit, élève du célèbre Frank Sinatra. Et sur ce disque, il y a un chant que j'ai beaucoup aimé, que je chante de temps à autre moi-même. Et je veux essayer de vous donner un peu le contenu. Il dit ceci, c'est son témoignage qu'il chante. « J'ai gagné tout ce que je pouvais gagner. Il n'y a pas d'endroit où je n'ai pas été. Pourtant, Mon cœur était solitaire et vide. C'est alors que je l'ai entendu dire doucement, il parle du Seigneur, « Perds tout et trouve-moi, trouve ma voie. » Alors j'ai renoncé à tout et j'ai tout trouvé et davantage. Et puis dans le refrain, il dit « J'ai tout perdu pour tout trouver. » Et ce soir, tu peux renoncer à ton passé parce que ce n'est vraiment pas une perte pour découvrir que le Seigneur peut te donner tout et même davantage. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons ici. Alors, Jésus dit, mais l'eau que je te donnerai, eh bien, c'est une eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Cette eau, c'est tout d'abord la personne du Seigneur Jésus lui-même. Cette eau, c'est son précieux évangile dont l'apôtre Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous savez, c'est le message qui change les hommes, qui transforme les êtres, qui rend libre, qui satisfait le cœur. Et maintenant, la soif de la Samaritaine, elle est aiguisée. Elle dit, « Seigneur, donne-moi cette eau. » Ah oui, c'était bien, n'est-ce pas? Seulement, sa motivation était impure. Elle voulait tout simplement éviter le chemin vers le puits. Elle ne voulait plus y aller, donc ça lui évitait ses marches solitaires sous le soleil de plomb. Et c'est pourquoi Jésus avait besoin de lui parler du véritable besoin. Il avait besoin de lui parler du fait qu'elle était pécheresse. Et ce soir, je voudrais vous faire comprendre, chers amis, que si Jésus-Christ est allé à la croix, c'est parce que l'homme est pécheur et c'est parce que le péché nous sépare d'avec Dieu et qu'il y a seulement un sacrifice d'un sacrifice parfait qui peut nous sauver. Alors il dit, va appeler ton mari. Jésus savait ce qu'il allait faire. Et la femme, elle dit, je n'ai point de mari. Et maintenant Jésus a ce qu'on appelle une parole de connaissance, une révélation surnaturel. Dieu lui révèle quelque chose. Il sait ce qui s'est passé dans la vie de cette femme. Il voit mari après mari défiler dans la vie de cette Samaritaine. Il compte 5. Il la voit vivre avec un 6e homme qui n'est pas son mari. C'était peut-être le mari de quelqu'un d'autre. Cette Samaritaine aurait pu être une bonne Martiniquaise. Parce que le même phénomène existe ici, n'est-ce pas? Je me souviens de ces deux femmes qui se sont querellées juste devant la cathédrale de Fort-de-France. Et une a crié, c'était un spectacle public, gratuit, je n'ai rien payé. Elle dit, mais laisse-moi mon mari, cherche quelqu'un qui est libre. Mais oui, mais notre Samaritaine, elle avait un problème. Et maintenant, regardez quelque chose, chers amis. Apparemment, elle avait plus que les autres femmes. Elle en a eu 5 maris, 5 aventures. Elle en était au 6e. Elle les usait visiblement, ces pauvres Samaritaines. Elle avait plus que les autres et elle était plus pauvre que les autres. Je voudrais te dire quelque chose, cher ami. Satan offre beaucoup, donne peu et te reprend tout. C'est ça la stratégie du diable. Il te promet un tas de choses. Il te donne très peu en réalité pour t'enlever finalement tout. Ça, c'est la stratégie du diable. Mais maintenant, cette femme, elle vient sous ce qu'on appelle la conviction du péché. Et ce soir, j'aimerais que tu comprennes que toi aussi, tu es pécheur. Je pourrais te citer les 10 commandements ce soir, et tu vas devoir avouer que tu en as transgressé plusieurs. Et la Bible dit, si nous sommes coupables d'un seul commandement, nous sommes coupables de tous les commandements. Autrement dit, tu es fiché, perdu. Tu as besoin du même sauveur que cette Samaritaine. Seigneur, je vois que tu es prophète. C'est déjà un pas dans la bonne direction, mais Jésus est plus que prophète, chers amis. On a fait de Jésus de tout, n'est-ce pas? Le premier communiste et le premier socialiste. Et qu'est-ce qu'il était encore? Un grand docteur. Un magnifique modèle, un exemple admirable. Tout cela, il y a peut-être un grain de vérité dedans, mais écoutez, ce n'est pas ce qui nous sauve. Tu as besoin de reconnaître en Jésus le sauveur du monde, qui seul puisse te sauver. Tu as besoin de reconnaître, tu as besoin de lui. Il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé. Et elle semble détourner la conversation. Elle devient tout à coup religieuse. Vous savez, ça, c'est typique aussi pour le Martiniquais. Mais le Martiniquais moyen est très religieux, n'est-ce pas? On peut faire sa prière et courir la femme du voisin. Il n'y a pas de contradiction apparente pour beaucoup de gens. On est un peu religieux et on est en même temps grand pécheur. Cher ami, elle parle de la montagne où il faut adorer. Et Jésus lui donne une leçon que nous devons retenir. Jésus nous fait comprendre que l'adoration n'a rien à voir avec un lieu géographique. Je n'ai pas besoin d'aller au Vatican. Je n'ai pas besoin d'aller à Jérusalem. Je n'ai pas besoin de visiter un certain endroit pour rencontrer Dieu. Jésus l'a dit, le Père cherche les vrais adorateurs. Ce sont ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Et laisse-moi te dire, tu pourras seulement adorer Dieu en esprit et en vérité quand toi-même tu as été transformé par le Seigneur Jésus. Quand tu es né de nouveau, quand tu es parvenu à une vie nouvelle, quittant les ténèbres et pénétrant dans la lumière du Seigneur. Ce soir, en arrivant, j'ai été frappé tout à nouveau par le panneau indicateur qui dit « vers la lumière ». Je sais que c'est pour la mutualité à côté, mais au fond, on fait de la pub pour cette église. Parce qu'ici, on parle de la lumière. C'est ça le chemin vers la lumière. Ce n'est pas l'église, mais c'est Jésus-Christ. Bien que Jésus dise « vous êtes la lumière du monde ». Alors, finalement, cette femme, elle fait une chose. Elle part. Et il y a une petite phrase que vous avez lue, et peut-être ne vous a-t-elle rien dit, mais la Bible dit que cette femme, laissant sa cruche, est partie. Et j'ai lu quelque part une belle phrase qui dit ceci, « Cette Samaritaine, elle a laissé la cruche et elle est partie avec la source ». Elle a laissé sa faible cruche, et je pourrais dire, ça représente cette religion, n'est-ce pas, et ses croyances. Elle est partie avec la source Jésus. Et tout de suite, cette Samaritaine est devenue un témoin. Ces villageois qu'elle évitait jusqu'à présent, eh bien, elle est allée vers eux en disant, « Dites-moi, venez voir vous-même, c'est un homme-là, et il m'a tout dit, il m'a tout simplement dévoilé ma vie. » Ne serait-ce pas le Messie? Et ces Samaritains sont venus. Est-ce que nous n'avons pas lu? Eh bien, la fin de l'histoire nous le raconte. Jésus a été invité par ces Samaritains à rester. Elle est restée là pendant quelques jours. Et à la fin, ces Samaritains disent, « Maintenant, ce n'est plus à cause de ce que toi tu as dit. Mais nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Eh bien, as-tu déjà ce témoignage? Jésus est le sauveur du monde, mais non seulement est-il le sauveur du monde, il est mon sauveur personnel. Alors je vous ai dit au début que pour moi, ce miracle s'est produit lorsque j'avais à peu près 18 ans et demi. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu dire, Jésus est mon sauveur personnel. Et ce soir, la même chose peut arriver. Si tu veux venir à lui, est-ce qu'on peut ensemble prier? Je demande à tout le monde de se recueillir. Je demande aux enfants de ne plus marcher maintenant. Que les parents les retiennent, s'il vous plaît. Et je prie pour que je demande aux chrétiens de s'investir maintenant dans la prière et que ce soir, il y ait au moins quelqu'un qui puisse vraiment voir la lumière et venir à Jésus. Seigneur, Nous te remercions de ce récit de l'Évangile, de cette histoire touchante, poignante, de cette pauvre Samaritaine qui cherchait la satisfaction dans ses aventures avec les hommes et qui a été tout simplement déçue et blasée. Père, je te demande que ce soir, il y ait des Samaritains et des Samaritaines qui aient à leur tour une rencontre avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Merci. Convaincre maintenant de péché, de justice et de jugement et de te glorifier. Père, qu'il y ait des personnes qui échappent à la condamnation éternelle, qui passent des ténèbres à la lumière, qui passent de la mort spirituelle et de la mort éternelle à la mort, à la vie nouvelle, éternelle et divine. Merci Seigneur de ce que par ton esprit tu passes maintenant par les rangs et tu parles. Et tandis que nos yeux sont fermés, tandis que nos fronts sont courbés, je voudrais savoir s'il y a ici quelqu'un, peu importe ton âge, enfant, ado, jeune, adulte, tu as écouté, tu as enregistré, tu as été interpellé, et ce soir tu dis, je veux que ce Jésus devienne mon sauveur personnel. Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te parle, oui, ce soir tu peux faire sa connaissance. Et tu vas découvrir qu'il dépasse toutes tes attentes. Tandis que les yeux sont fermés, personne ne regarde, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un et tu dis, moi je voudrais vraiment que Jésus devienne mon sauveur personnel. Tu veux faire ce choix. Tu veux confesser tes péchés. Tu veux te détourner de ta vie ancienne. Et tu voudrais commencer une existence nouvelle. Tu veux connaître cette paix avec Dieu et cette paix de Dieu. Tu voudrais connaître une satisfaction qui est permanente, qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui est un cadeau de Dieu. Alors, tandis que chacun prie, je voudrais voir s'il y a ici quelqu'un qui dit oui, et tu le dis en levant ta main. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui dit, moi je veux venir à Jésus? Alors, veux-tu lever ta main, s'il te plaît? Et je voudrais, oui, je vois cette main-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dit, ce soir, moi j'ai besoin de Jésus? Je sais que ma vie n'est pas en règle avec Dieu. Je sais que j'ai besoin de changer de vie. Alors, veux-tu lever ta main? Veux-tu venir à Jésus? Merci, monsieur. Donc, vous pouvez baisser votre bras. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait ce soir donner son cœur, sa vie à Jésus? Vivre la puissance transformatrice du Seigneur Jésus-Christ. Alors, est-ce que je peux voir ta main? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Se peut que tu viennes ici régulièrement, mais cela ne fait pas de toi automatiquement un chrétien. Il se peut que tu sois fils ou fille de chrétien, de parents chrétiens, mais on n'est pas chrétien de père en fils ou de fille en, de mère en fille. On le devient par un choix personnel. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre pour qui je peux prier? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Alors dans ce cas-là, veux-tu l'indiquer en levant ta main et je veux prier pour toi. Alors je veux demander à ce monsieur, est-ce que vous voulez bien vous lever et venir ici? Monsieur qui a levé sa main, est-ce que vous voulez venir ici? Et je veux prier pour vous. Et s'il y a toutefois encore quelqu'un d'autre, vous n'avez pas levé votre main, mais vous aimeriez que je prie aussi avec vous, voulez-vous maintenant venir? Bonsoir, monsieur.